Europe 1, 15h-16h,
Samedi en France.
William Lémergie.
Bonjour à tous, madame, monsieur, bienvenue dans Samedi en France. Avec mon complice du guide du routard, nous allons vous emmener par des chemins de traverse, hein, c'est notre vocation, sur des sites originaux que vous ne connaissez peut-être pas et qui méritent franchement d'être visités. Alors, le premier d'entre eux entre dans la catégorie site insolite. Alors, je vous propose avec Gavin Clément-Terruiz, c'est lui le gars du routard, de faire un aller-retour en Asie ou quasiment en Asie, tout en restant en France. Alors, pourquoi on va faire ça? D'abord, c'est pratique, parce que c'est beaucoup moins loin, ça coûte moins cher. Et alors, on n'a pas besoin de carburant, donc l'empreinte carbone est très correcte. Et là, on est sauvés, quoi. On ne va pas se faire gronder par les écolos. Donc, nous allons où pour commencer à quel endroit? Pour y faire quoi? Et pour voir quoi?
Alors, bonjour William, bonjour à tous. Alors, le défi du jour, c'est de partir en plein cœur de l'Asie, vous l'avez dit, tout en restant dans l'Allier. Là. Nous serons en plein cœur du Bourbonnais, exactement à Noyant d'Allier. C'est à une cinquantaine de kilomètres à peu près au nord-ouest de Vichy. Alors, c'est là que vous allez découvrir un village, attention, avec une pagode, un Bouddha qui s'élève, surdimensionné, et quelques autres jolis Bouddhas dissimulés dans un grand parc tout autour.
Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais vous allez nous raconter ça. Ils ne sont pas devenus bouddhistes en Auvergne tout d'un coup, il y a quelques années?
Non, je vous rassure, pas précisément. Mais tout a commencé, on va dire, dans les années 50, à peu près à la fin des années 50. À l'origine, le village de Noyant d'Allier, c'était une cité minière. D'ailleurs, on peut encore visiter le musée de la mine de charbon à Noyant d'Allier. Il y a une mine qui a fermé au milieu des années 40. Et à l'époque, les mineurs, ils ont commencé à quitter les lieux progressivement. Le village s'est retrouvé en quelque sorte abandonné. Et il a fallu attendre 1954, après la guerre d'Indochine, pour voir arriver sur place une nouvelle population qui est arrivée. Ce sont les familles entières qui ont quitté l'Indochine, plus particulièrement le Vietnam, où la religion bouddhiste est majoritaire.
Oui, alors il faut expliquer que c'est l'État, c'est le département qui leur a confié, parce qu'il fallait bien héberger ces populations-là. Ce sont donc des familles vietnamiennes qui ont, comment dire, recréé dans ce lieu un village, une ambiance typiquement asiatique avec les temples dans lesquels ils avaient l'habitude de se recueillir quand ils habitaient l'Asie. Alors, si vous voulez, moi j'ai l'impression que c'était une manière à l'époque de lutter contre le mal du pays, parce que c'est pas simple de passer du Vietnam tout d'un coup à l'Allier, quoi.
C'est exactement ça, William. Et vous imaginez, avec le temps, il y a maintenant comme un petit air d'Asie qui flotte sur ce village d'Auvergne.
Alors, regardez les photos si vous avez le temps sur Internet, vous les trouverez facilement. C'est pour ça qu'on vous parle de ça, parce que c'est très original. Nous sommes en ligne avec Caroline Guyenne, qui est propriétaire du restaurant Le Petit d'Asie, un peu l'ambassadrice du village. Bonjour Caroline.
Bonjour William, bonjour Gavin.
Bonjour.
Alors, quelle est la première réaction des visiteurs quand ils découvrent ce lieu? Parce qu'il n'y a pas simplement des descendants de Vietnamiens qui habitent là, il y a plusieurs nationalités, je crois.
Tout à fait. Donc, on a la chance d'avoir un village très atypique. Quand vous arrivez à Noyant, le Noyant paraît un village comme beaucoup de villages de France.
Oui.
Et puis là, vous voyez un grand Bouddha en plein cœur du bocage. Et puis surtout aussi, une population très métissée. Et en fait, les gens se posent des questions. Pourquoi la pagode? Pourquoi quelle est l'histoire de Noyant, en fait? Et il faut savoir, comme vous avez dit, que Noyant était un village minier qui a accueilli les familles des rapatriés d'Indochine. Après la chute de Dien Bien Phu, qui met fin à la colonisation des Français en Indochine. Et donc, ces familles sont la plupart issues des couples mixtes. Donc, le père français et maman vietnamienne, donc des enfants eurasiennes. Voilà. Et dans toutes ces familles qui arrivent à Noyant, logées dans les corons délaissés par les mineurs, certaines familles, certaines personnes sont bouddhistes, d'où la présence de la pagode.
Et oui, bien sûr, il faut les temps, puisqu'ils ont continué à pratiquer leur religion. Mais est-ce qu'ils ont reconstitué, je dirais, une sorte d'écosystème avec, de la végétation comme on en trouve chez eux, au Vietnam?
Alors, au niveau du climat, ici, cela ne favorise pas forcément la végétation. Par contre, ce qu'ils peuvent ramener, c'est, par exemple, quand vous arrivez à Noyant en été, vous pouvez voir dans certains jardins des christophines ou des chouchous. Vous avez beaucoup dans le jardin, des feuilles de menthe. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver aussi des courgettes vietnamiennes ou des concombres amers, ce genre de choses.
C'est ça que je voulais savoir. Oui, ils ne sont pas partis les mains vides comme ça. Enfin, ce n'est pas facile, je suppose. quand on était rapatrié à cette époque-là. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes ces statues. La religion est très présente, non, dans le village?
Alors, on a la chance d'avoir donc cette pagode donc bouddhiste qui est un lieu incontournable. Et dans le village, c'est vrai qu'il y a donc des rapatriés, il y a des locaux hein, qui sont catholiques, voilà, bien sûr. Et donc dans les rapatriés, vous avez donc des personnes qui sont catholiques, mais d'autres bouddhistes. Et donc la pagode est un lieu incontournable pour les personnes qui sont croyants pour venir se recueillir, mais aussi pour tous les autres. C'est un lieu vraiment de spirituel, mais aussi de retrouvailles. Pour les dames entre elles, en fait.
Est-ce qu'il y a des familles qui viennent encore s'installer là, qui viennent d'un peu partout ou pas du tout? Maintenant, le village est plein, quoi.
Il faut savoir qu'en fait, Noyant a accueilli donc, les rapatriés à la fin de la guerre, donc 55 jusqu'à 65, environ à peu près 1500 personnes.
Ah oui.
Et oui, c'est important. À un moment donné, d'ailleurs, Noyant était un des villages le plus jeune de France, avec environ une vingtaine de nationalités, vous voyez. Voilà, à l'heure actuelle, donc bien sûr, il n'y a plus de rapatriés. Par contre, la tendance qu'on constate avec les élus, c'est les enfants des rapatriés
oui.
qui reviennent pour leur retraite. Parce que c'est leur village d'enfance, leur village
oui.
de cœur.
Ah oui, bien sûr.
Ils continuent de perpétuer.
Ah oui,
voilà.
D'accord. Ils trouvent quand même de la place. On ne leur dit pas, dites-donc, là, il n'y a pas de place pour vous. Bien sûr que si. Ils peuvent...
Ah non, parce que en fait, vous savez, les logements donc qui appartenaient à l'État a été revendu aux rapatriés et aux locaux qui souhaitent de racheter. Et donc beaucoup ont gardé leur maison comme maison familiale. D'autres des enfants ont racheté leur maison. Mmh. Et du tout coup, qu'on permet au village d'exister et continuer à perpétuer l'histoire donc de Noyant, qui est vraiment une touche très insolite dans le Bocage.
Mais comment ça s'est passé la cohabitation entre les anciens des corons et puis les familles venues du Vietnam?
En cohabitation, plutôt bien, dans le sens où les Bourbonnais, donc les Noyantais, ont déjà l'habitude d'accueillir donc, les immigrés donc, de l'Europe de l'Est pour la mine.
Ah oui, c'est vrai.
Certes, nous, les rapatriés sont différents parce qu'ils sont plus métissés, mais n'empêche, ils ont déjà une habitude d'accueil donc, des populations qui viennent d'ailleurs.
D'accord.
Et donc, leur arrivée a été quand même bien aidée par les locaux parce qu'il faut s'acclimater. Nous, là-bas, c'est un autre climat. Et notre culture.
Oui,
et c'est vrai qu'ils sont arrivés ici de façon complètement démunie. Donc
oui.
Il a fallu un peu de temps pour s'adapter. Et les locaux ont été un grand soutien.
Bien sûr. Alors, l'héritage des mines, il faut expliquer que c'est mis en valeur au musée. Gavin l'a dit tout à l'heure. Donc ça se visite, ce musée-là. Mais quand on visite le village, on peut aussi, m'a-t-on dit, faire du vélo rail. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, le vélo rail, oui, tout à fait. Comme il y a un chemin de fer, donc il y a une entreprise qui a demandé l'exploitation.
Ouais.
Et donc, si on veut venir à Noyant, passer une journée, on peut être à quatre sur le vélo. Et donc on roule sur le rail, en fait. La voie ferrée est très jolie. On peut voir le joli Bocage, mais aussi le musée de la mine, la pagode, le pont de Messard. C'est vraiment un cadre super sympa. Et on peut à Noyant passer une journée en visitant...
D'accord, bien sûr.
Voilà, musée de la mine, la pagode, faire des volorailles, faire la marche dans les côtes Matras, c'est vraiment une journée.
Est-ce que je peux, Caroline, vous poser une question personnelle? Vos parents ou grands-parents sont originaires du Vietnam?
Oui, mon père, mes parents sont vietnamiens. Et contrairement donc à l'histoire qu'on vient de parler, donc qui sont des familles rapatriées, mon père est un réfugié en fait.
Donc,
il a quitté le pays plus tard. Oui.
D'accord.
Et donc, mais on est venu à Noyant justement parce que c'est un village des rapatriés et c'est comme si c'était un petit coin de l'Asie.
Et, oui.
Et maman, quand elle a su l'histoire, elle est tout de suite tombée amoureuse de ce village. Et depuis, moi, depuis 30 ans, je suis à Noyant et moi aussi, j'adore ce village et je travaille tout pour lui.
Vous êtes chez vous.
Voilà.
On termine. Qu'est-ce qu'on mange dans votre restaurant le petit d'Asie? On mange une cuisine locale ou c'est un peu matiné avec de la cuisine d'Asie et du Vietnam en particulier, qui est délicieuse, je me permets de le préciser.
C'est très gentil. Non, ici, nous, en fait, toute l'équipe est 100% vietnamien, hein, ah. Que ce soit mon conjoint ou mes collègues. Et les saveurs qu'on propose est typiquement vietnamienne. Après, bon, bien sûr, il y a des produits qu'on s'en sert ici, comme la viande de bœuf, c'est du char au lait. Tout ce qu'on peut prendre comme matière première au niveau local, on le fait. On propose, par exemple, de la bière qui vient du Vietnam, mais aussi un peu de vin de Chine et bien sûr du vin de Saint-Pourçain. Donc, on essaye de travailler, donc, nous, nos produits, mais aussi avec des produits locaux. Pour proposer à notre clientèle des saveurs asiatiques, mais avec des produits locaux.
Et vous devez être la seule dans la région. Merci beaucoup, Caroline, pour toutes
merci
ces...
Merci à vous.
Merci pour toutes ces explications. Je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de clients.
Merci
Gavins,
beaucoup.
Merci à vous. Gavins, si on veut se rendre à Noyon pour visiter la pagode, comment ça se passe
et... Eh bien, alors, pour l'instant, on peut visiter, on la voit de l'extérieur
du
parc.
Ah bah oui, ça, pour la voir,
si
la voir.
Vous verrez cet immense Bouddha doré en arrivant à Noyon d'Allier. Et puis, pour visiter la pagode, c'est à partir du mois de mars, pendant tout l'été. Vous avez plein de visites guidées proposées. Il y aura peut-être Caroline qui sera juste à côté.
Alors, pour déjeuner ou dîner, petit d'Asie
on va au petit d'Asie, chez Caroline, chez son mari, qui cuisine asiatique avec les produits locaux, comme elle nous l'a dit. Il y a elle a parlé du bœuf, il y a aussi le poulet au caramel que j'aime beaucoup, et les mochi, je ne sais pas si vous connaissez William,
non.
Ce sont des petites boules de farine de riz gluant,
ah, si.
Avec de l'amidon
avec
d'orge.
Avec des petits perles.
Exactement.
Non, c'est ça.
Il y a des haricots de mungo, ça, un peu comme de la châtaigne à l'intérieur, c'est sucré en dessert, je vous conseille. Comptez 15-16 euros pour un menu complet,
ça.
C'est vraiment super. Vraiment, et puis il y a une petite boutique aussi dans le restaurant de Caroline, le Petit d'Asie. Vous pouvez acheter des produits d'Asie de qualité, faire un vrai voyage en partant pas si loin que ça, en plein cœur du Bourbonnais. C'est une bonne idée, Noyon d'Allier.
Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous consultez vos réseaux sociaux habituels ou alors le meilleur d'entre eux, europe1.fr.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Voici dans Samedi en France un autre site dit du patrimoine, puisque nous avons quatre catégories à vous présenter chaque samedi. Alors, lui aussi, il est un tout petit peu oublié des circuits traditionnels, mais pourtant, on ne pouvait pas le louper parce qu'on le voit de loin. Alors, c'est où précisément, M. Gavins Clémenté-Ruiz, et pourquoi on le voit de loin?
Alors, William, je vous emmène sur les grandes terres agricoles et plates, c'est pour ça qu'on le voit de loin, du nord de la France, on est entre la Flandre et l'Artois, plus précisément à Douai. Douai, eh bien, c'est à 40 km au sud de Lille. Cette ville, elle a été connue autrefois pour être une grande cité drapière, comme on disait, du nord. Il travaillait dans le tissu, au Moyen-Âge notamment. Ce fut aussi autrefois une importante université, c'est jusqu'à la fin du 19e, 1887. C'est devenu aussi une cité minière renommée. Et qu'est-ce qu'on aperçoit sur ces grandes plaines de loin, William, je vous le donne dans le mille, c'est le beffroi.
Alors, vous allez me dire, ça va, un beffroi dans le nord, il y en a beaucoup. Non, mais celui-là, on vous demande de vous y arrêter parce qu'il est un peu particulier. Alors, il faut peut-être rappeler ce que c'est qu'un beffroi.
Alors, le beffroi, c'est une grande tour. C'est en général au milieu de la ville. Au début, c'était construit en bois. Après, il y a eu de la pierre, du béton. Alors, ça servait en fait à surveiller la campagne tout autour.
Oui, c'est comme une tour de guet géante.
Exactement. En cas d'attaque, on sonnait le carillon.
Ah.
Et depuis, c'est devenu l'emblème de la ville de Douai. Alors, il y en a d'autres, vous l'avez dit, dans le nord. Mais celui-là, il est particulièrement remarquable. Il est un peu moins connu. C'est dommage et c'est pour ça qu'on l'a.
Oui, il date de quand, lui?
Alors lui, il date du 14e siècle. Alors j'ai trouvé des mots de Victor Hugo, rien que ça, qui en parlait quand il écrivait à sa femme. Oui, il y en a qui écrivent des choses assez rigolotes en écrivant à leur femme. Il disait « Il y a le plus joli beffroi que j'ai encore vu à Douai. Figure-toi, une tour gothique coiffée d'un toit d'ardoise qui se compose d'une multitude de petites fenêtres coniques superposées, c'est précis, sur chaque fenêtre une girouette, aux quatre coins une tourelle, sur la pointe du beffroi un lion » qui tourne avec un drapeau entre les pattes et de tout cet ensemble si amusant, si fou, si vivant, il sort un carillon.
Pas mal hein, la description. Comment il s'appelle le gars là?
Victor
Merci
Hugo.
Il s'était brouillé bien, je ne sais pas pourquoi il passait par là.
Il y a peut-être un avenir dans la littérature.
D'accord. Alors, nous sommes en ligne avec Philippe Pichard qui est le guide et conférencier au beffroi de Douai. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, je disais qu'on le voyait de loin et pour cause, il mesure combien ce beffroi de Douai?
Alors, notre beffroi mesure 61 mètres de haut. Ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus petit. On dirait qu'il a une taille moyenne à peu près.
D'accord. Quand on lit le texte de Victor, là, on peut dire que ce beffroi, il a quand même un style particulier. Lequel, vous direz, pour le décrire, vous diriez quoi?
Il a été construit en un style gothique classique, gothique, le style typique du Moyen-Âge, finalement.
Mmh, donc 14e siècle. Mais au fil des années, je suppose, parce que ça existait ailleurs, qu'on a ajouté des éléments, non ?
Oui, exactement, oui. Le beffroi a brûlé en partie au 15e siècle. On a reconstruit la flèche tel un château de princesse, presque, avec du décor, avec des petits soleils dorés, avec un soleil, avec un lion qui était posé sur le haut de la flèche. Ouais. Ça en donne un aspect tout à fait remarquable.
Mais je me demande s'il n'y avait pas compète entre toutes ces villes du Nord, plus ou moins connues, c'était d'avoir le plus joli beffroi, le plus original, celui qui est le plus festonné, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, en tout cas, chacun avait le sien, effectivement, pour marquer l'indépendance communale de chaque cité.
Donc celui-là est remarquable aussi. On peut grimper au sommet ou pas ?
Oui, alors il faudra vous armer de courage parce qu'il y a 195 marches pour aller jusqu'en haut, mais la vue vaut le coup d'œil. Là-haut, c'est vraiment splendide.
Alors, concernant le carillon, on va y revenir là, il avait disparu durant la Première Guerre mondiale, c'est bien ça ?
C'est ça, oui, les cloches ont disparu pendant la Première Guerre, mais tout a été reconstruit, les Douaisiens ont doré leur carillon, donc on a tout refondu en plusieurs fois. Aujourd'hui, il y a 62 cloches dans le beffroi, 18 tonnes en tout.
Mais c'est le carillon le plus important de France, c'est vrai ou
En tout cas, ça en fait un des plus larges, oui, c'est vrai, ça en fait un des plus larges. Qui est largement utilisé par tous les carillonneurs, effectivement.
Alors, on dit que le carillonneur était chargé de, je cite, hein, de bateler les apiaux. Bon, ça veut dire quoi dans la langue locale ?
Alors, effectivement, bateler les apiaux, c'est-à-dire qu'il tapait sur des petits marteaux en bois sur les cloches pour annoncer les différents moments de la journée, pour alerter notamment. C'est une des fonctions principales du beffroi. On l'a construit aussi pour observer et alerter, et le battleur, finalement, alerter les Douaisiens.
Mais par exemple, au moment de la Première Guerre, il a beaucoup sonné le carillon, où on l'a mis à l'abri et on ne voulait pas se faire remarquer.
Non, Douai était en zone occupée et les cloches ont très vite été éteintes, finalement. Elles ont été transformées en canons, évidemment.
Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, il sert toujours à rythmer les heures. Autrefois, c'était le travail dans les champs, je suppose.
Oui, effectivement, oui. Initialement, le beffroi servait avant tout à rythmer la journée, le lever du soleil, le coucher du soleil. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être en retard à Douai, hein, parce que le beffroi sonne toutes les 15 minutes. Donc, on ne peut pas se tromper.
Toutes les 15 minutes ?
Oui. Ah oui, chaque quart d'heure est annoncé avec un son de cloche différent. Oui.
Mais quand on habite là-bas, on ne se rend plus compte. On a l'habitude de vivre avec ça. Mais il ne le fait pas la nuit, quand même.
Non, il s'arrête le soir, mais justement, nous, on s'inquiète à Douai quand les cloches s'arrêtent de sonner. Là, on s'imagine qu'il y a toujours un petit problème.
Hein. Le voilà. Mais c'est quoi, ça ? C'est une... Il y a quelqu'un qui a écrit cette musique, quoi, finalement.
Oui, alors ça, c'est l'air de la demi-heure. c'est un air très classique.
Alors, quand
c'est la barcarolle de Marie, oui.
Ah bon, d'accord. Donc, si j'entends ça dans la matinée, je sais que je suis à une demi-heure, d'accord ?
À la demi-heure, effectivement, à chaque fois.
Mais celui qu'on entend dans Bienvenue chez les Ch'tis, ce célèbre film, là, c'est le carillon de Douai, c'est vrai ?
Oui, on a pris notre part au succès également, alors de façon très discrète. Mais toute la musique du film, en tout cas une bonne partie, les cloches du film sont les cloches de Douai qui sonnent.
Ils ont dû être jaloux, les autres. Il y a un concert, paraît-il, toutes les semaines. C'est quand ? C'est aujourd'hui ? Non, c'est le samedi ?
Oui, le samedi matin, effectivement. Il y a une longue tradition de carillonneurs à Douai depuis le Moyen-Âge. Finalement, on n'a jamais arrêté de sonner les cloches, ou presque. Et encore aujourd'hui, le samedi matin, pendant à peu près trois quarts d'heure, vers 10h45, si vous venez à Douai ou si vous participez à la visite guidée, vous entendrez forcément et vous verrez peut-être le carillonneur jouer des airs tout à fait traditionnels, d'airs classiques, ou bien encore du Daft Punk ou Edith Piaf, pourquoi pas. On peut tout faire sur le beffroi, on peut tout faire.
Ah oui, du Daft Punk, ça alors.
Oui,
je suis sûr qu'ils ne le savent pas, les... Monsieur Clément Thérus a quelque chose à dire.
Je crois même qu'il y a un enseignement de carillonneur au conservatoire de Douai, non ?
Exactement, il y a une classe où ils sont une quinzaine d'élèves à apprendre la tradition, à apprendre l'art de carillonner. Et très souvent, de ce fait, ils montent dans le beffroi pour s'entraîner sur le vrai carillon. Et alors, toute la ville peut en profiter. Et c'est toujours très agréable. La musique s'arrête jamais à Douai.
Merci beaucoup, Philippe, pour...
Merci beaucoup, avec plaisir.
Je vous souhaite une bonne journée. Alors, Monsieur Gavitz, ça coûte combien d'aller faire la visite de tout ça?
Alors, je ne sonnerai pas le carillon, mais ça coûte 6 euros pour la visite du Beffroi. Ça se déroule toute l'année, tous les jours. Alors, c'est à 15h et 16h30. Il y a une petite visite supplémentaire à 11h le week-end, les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
Alors, il y a une adresse pour manger sur place à Douai?
Bien sûr. Le Prévert, après Victor Hugo.
Comme
le Prévert, oui, comme Jacques. C'est un restaurant vraiment convivial, c'est vraiment typique. Il y a des plats avec des terroirs, j'ai envie de dire. C'est très généreux. Il y a la carbonade flamande, bien sûr. Il y a, vous savez, c'est de la viande cuite à la bière. J'adore ça. C'est parfait.
Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas, finalement?
Pas grand-chose, en fait. Vraiment, j'aime bien. Je suis assez gourmand. Le plat du jour, 10 euros au Prévert. C'est pas mal. On vous conseille. L'adresse est sur europe1.fr, bien entendu.
Europe 1, 15h-16h. Samedi en France. William Lémergie.
On va s'intéresser maintenant à un site du savoir-faire français qui participe depuis très très longtemps, je vais dire, à la fabrication d'un vêtement indispensable, franchement, pour tout vestiaire qui se respecte. Hein. Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, si vous n'avez pas ça dans le vestiaire, c'est anormal. Et pour ça, avec Gavin Clément-Terruis du Guide du Routard, vous portez des vêtements comme ça, vous?
Mais je suis en train de regarder si vous-même, vous en avez un aujourd'hui.
Oui, ça ressemble un peu à
exactement.
Ça. Exactement.
Oui, j'en porte.
Très bien. Alors, direction Nîmes. Là, déjà, vous avez une petite idée, peut-être. où sommes-nous? Comment s'appelle cette région?
Alors, Nîmes, c'est la région Occitanie, plus précisément.
Occitanie. C'est récent, ça.
Ouais, c'est récent, hein, depuis une dizaine d'années maintenant. On est plus précisément dans le département du Gard. Alors Nîmes, c'est entre Montpellier au sud, Avignon au nord, et c'est une ville qu'on a surnommée la Rome française, à bien des égards, avec des monuments comme les Arènes, la Maison Carrée. Mais on oublie qu'au XVIIIe siècle, les manufactures de Nîmes ont importé du coton d'Égypte pour fabriquer une toile très très solide et de couleur bleue. Petite idée, William?
Oui, quand même. Parle de quoi ? Oui, oui. Alors, pour en porter encore et toujours, depuis tout petit, il s'agit d'un pantalon. Mais alors après, ils ont fait des blousons, des vestes, etc., des chemises, etc. Un pantalon dont la France a largement contribué à faire sa notoriété. Hein. Il s'agit du jean.
Vous avez lâché le mot. C'est bien le jean, cette toile qui sera ensuite exportée aux États-Unis et baptisée là-bas la toile de Nîmes. C'est un homme d'affaires d'origine allemande, Levi Strauss, qui a donné Levi's plus tard, qui fabriquera avec cette toile des vêtements de travail. Au début, c'était pour les cow-boys, les chercheurs d'or. Il fallait que ce soit solide. Un vêtement qui va teinter au bleu de Gênes, comme la ville de Gênes, d'où le nom Blue Jean. Et la saga de ce vêtement a commencé comme ça.
Je disais tout à l'heure qu'en maintenant, évidemment, on en fabrique dans le monde entier, mais y compris à Nîmes, parce que ça, on avait peut-être oublié à une époque.
Et à nouveau à Nîmes, j'ai envie de dire. Oui. Exactement, c'est pour ça qu'on vous invite à aller dans cette ville, parce que les ateliers de Nîmes perpétuent la tradition du jean.
Et ça méritait d'être dit et redit. Nous sommes en ligne avec Guillaume Sago, qui est le cofondateur des ateliers de Nîmes. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour William.
Alors, vous êtes où, là, dans l'atelier en question ?
Oui, là, je suis dans l'atelier, on est en train de tisser en ce moment.
Comment vous est venue cette idée de relancer la production de cette toile si résistante ? Parce que, est-ce que vous la fabriquez comme avant, comme autrefois, ou vous avez apporté des innovations ? Mais d'abord, l'idée de dire, allez, on y retourne.
L'idée, c'est venue d'un constat, c'est-à-dire que le savoir-faire avait complètement disparu à Nîmes. On en parlait beaucoup de cette fameuse toile.
Ouais.
Et bah, j'ai essayé de relancer vraiment le côté industriel de ce tissu et le savoir-faire surtout.
Et là, vous êtes dans la tradition, c'est-à-dire si on reprenait le tissu tel qu'il était fabriqué autrefois, c'est-à-dire avec sa couleur, son épaisseur, sa solidité, ça ressemblerait à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ?
Pas exactement au denim original. Le denim original, c'est de la laine et de la soie. Nous, on est en 100% coton, mais on utilise des techniques anciennes, c'est-à-dire que nos fils sont tous retors. On utilise en fait des fils assez épais, un peu plus épais que dans le commerce traditionnel.
Des fils retors, c'est quoi?
C'est-à-dire
ça
en fait que
moi, je connais les gens
sont...
retors, mais pas les fils retors.
C'est-à-dire en fait que nous, on utilise des fils qui sont doublés, un processus mécanique qui permet en fait d'avoir deux fils en un et d'avoir une solidité plus importante que sur une toile.
Alors, vous savez ce qu'on disait à l'époque, et même quand on ne fabriquait plus des jeans qu'en Asie et aux États-Unis, on disait oui, mais alors c'est absolument anti-écolo, on dépense beaucoup trop d'eau pour fabriquer un jean. Est-ce que c'est toujours le cas ou on a fait des progrès?
Alors on a fait des progrès évidemment, et Par exemple, nous, sur notre toile, avec l'utilisation du fil retors, ça nous permet en fait d'éviter l'encollage. En fait, l'encollage, c'est une technique qui utilise beaucoup d'eau, de la colle, et c'est utilisé sur les industries classiques du jean. Et comme nous, notre fil est plus solide, on n'est pas obligé d'encoller la toile pour qu'il y ait une résistance sur
Mais
cette toile.
Est-ce qu'il faut des machines particulières pour fabriquer cette toile-là, ou elles ont été modernisées d'année en année, ou alors c'est toujours les mêmes comme autrefois
Alors nous, on a eu l'idée de travailler sur des anciennes machines. On a deux métiers à tisser des années 50, un métier à tisser de 1990. Et là, actuellement, on est en train de tisser sur celui de 1990. Et c'est le dernier métier à avoir été fabriqué en France.
Mais alors, il faut savoir les faire marcher, ces engins-là. Est-ce que vous avez la contribution des anciens qui ont dit ouais, « mon petit gars, je vais te dire comment ça marche, ce truc-là »
C'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu trop d'ambition à faire tout seul. Ça a été compliqué parce que c'était vraiment des machines très, très compliquées à mettre en place.
Et,
j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Hein. J'ai rencontré Alain Beauchemin et Lucien Bialik qui m'ont aidé. Alors, c'est des retraités du textile qui étaient en fait spécialisés dans ça.
Ah ouais.
Et Lucien, lui, était aussi spécialisé dans le denim.
Ça tombe bien. Est-ce que vous achetez les principaux ingrédients à des fabricants de vêtements, ou vous fabriquez vous aussi des vêtements?
C'est ça. On a une marque aussi on utilise notre propre toile. Alors, on travaille encore avec du tissu des Vosges, mais on travaille aussi maintenant avec notre propre toile tissée à Nîmes.
Par exemple, là, combien ça coûte un jean fabriqué avec la vraie toile de Nîmes, là, en ce moment, chez vous?
Alors, actuellement, en fait, nous, on est en précommande à 150 € sur notre site internet. Mmh. Et donc, dans notre magasin à Nîmes, c'est 150 €.
Bah, ça va, voilà. Je sais pas, je me rends pas compte.
C'est un jean haut de gamme.
Oui, c'est sûr qu'en fait les process avec donc l'utilisation des fils de qualité, un montage aussi de qualité des pantalons, c'est un pantalon haut de gamme, effectivement.
Ça dure plus longtemps aussi. C'est ça qui est bien.
Ouais, non, mais apparemment, ce qui revient peut-être un petit peu plus cher par rapport à d'autres vêtements industriels, c'est l'utilisation de coton en plus grande quantité et en meilleure qualité, me semble-t-il. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Vous avez raison, c'est ça en fait. C'est que nous, on utilise quand même du coton de qualité et c'est ce qui revient forcément plus cher, c'est la matière première.
Oui, mais alors, est-ce qu'il faut forcément aller à Nîmes? Ce qui n'est pas une mauvaise idée d'ailleurs. Ou alors, vous êtes distribué dans toute la France
Venez à Nîmes parce qu'en fait, c'est une très jolie ville. Et en fait, nous, on distribue aussi un peu partout en France.
Est-ce que vous profitez, est-ce que vous avez le droit de profiter de votre statut de fabricant en France, dans la ville de Nîmes? Est-ce que vous profitez de ça pour mettre sur votre jean, de façon à ce que, par exemple, moi, si je suis acheteur, je le reconnais? Ou est-ce que vous mettez fabriqué à Nîmes ou quelque chose comme ça, voyez?
Nous, on communique en fait sur le tissage de la toile tissée à Nîmes, effectivement.
Bon, d'accord. Donc, on devrait le trouver facilement chez des distributeurs connus, des grands magasins, par exemple.
Par exemple, sur Paris, on est distribué à la Samaritaine ou au Printemps.
Bon, ben voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume, de perpétuer cette tradition. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup. Merci. C'est gentil, au revoir.
Au revoir. Gavin, alors, il vient de le dire, là, il a raison. Hein. Profitez-en pour aller à Nîmes. Parce que, il y a les arènes, on l'a dit, la Maison Carrée. Alors, c'est bien aussi, il y a un autre musée.
Oui, le musée de la Romanité.
C'est bien ça.
Ah oui, c'est sublime. On en avait parlé il y a quelques semaines. C'est vraiment très beau. C'est l'archéologie romaine qui est remise en valeur et qui est vraiment très, très bien présentée. C'est très moderne. C'est un monument, un musée-monument, j'ai envie de dire, qui remet l'archéologie romaine en valeur à Nîmes.
Et puis, alors, à Nîmes, il y a pas mal de spécialités. Il y a une très, très, très connue.
Bah oui, il y en a une que j'aime beaucoup. Encore une fois, vous allez me le redire. C'est la brandade de morue fraîche.
Parce qu'il n'y en a pas partout ailleurs en France.
Et la nîmoise, elle est vraiment pas mal. Ouais. Je vous conseille pour ça une adresse. Il faut aller chez Christophe Mouton, c'est au 9 rue de l'Horloge. Demandez la brandade de mouton à la patronne, ça va la faire sourire.
Oui. Elle a peut-être déjà entendu votre blague.
je crois. Bref. Et il y en a aussi...
Bonjour madame, je voulais la brandade de mouton. Oh là là, Encore.
Oh là là, encore lui. Ah, encore. C'est le mec du routard.
Ah ouais, la blague du routard.
Il y en a aussi chez Daniel, ça c'est au Hall. Et les Halles, le dimanche matin, c'est un peu l'épicentre de Nîmes. C'est le rendez-vous par excellence.
C'est-à-dire qu'on vient, on met ça sur un petit croûton de pain grillé.
Arrêtez.
Et puis avec un boire avec modération.
Ouais,
le vin en question.
Ce qu'on va boire avec. Vous pouvez goûter aussi la navette de Nîmes. Alors, c'est pas une sucrerie comme on pourrait le croire, c'est un fromage de chèvre, la navette de Nîmes. Je vous conseille, là encore une fois, d'aller à la fromagerie Vergne. Elle est très bonne.
Oui, mais alors, si on a envie de casser sa tirelire, est-ce qu'il y a un gastro à Nîmes, quelque chose comme ça?
J'ai ce qu'il faut pour vous. Il faut aller manger à la table de Vincent Croisard. C'est l'une des plus belles tables de la ville, hein, sans aucun doute. C'est un amoureux des voyages. Vincent, qui adore vraiment travailler les épices et les produits locaux bio, encore une fois. Les produits issus de l'agriculture raisonnée, comme on dit. Il y a un menu éphémère le midi à 32 €. Bon, pour goûter un gastro, c'est pas mal.
Oui.
Et sinon, le soir, c'est 50 € pour le menu végétarien et jusqu'à 75 € par personne pour le menu parfait, on va dire, le menu d'excellence.
Oui.
Vous avez un petit porcelet laqué à la poudre des vents, rien que ça.
Jus
au foin fenouil, riz lié de boudin, rubané de pommes.
Attendez, doucement, laqué à la poudre des vents.
C'est beau, non?
Jus au quoi, vous avez dit?
Jus au foin fenouil.
Oui.
Riz lié de boudin, enrubanné de pommes et foin de poireau Neptune.
Dommage, si on n'a plus faim, mais enfin, gardez ça dans votre mémoire. Si
c'est,
vous repassez,
c'est un voyage rien que dans l'intitulé. Ouais. Hein. C'est la table de Vincent Croisard à Nîmes.
D'accord. Un peu plus de détails et même des photos sur europe1.fr. Maintenant, je vous propose, comme chaque semaine, d'aller un peu plus à l'ouest, un peu plus ailleurs, on va dire. Là, c'est sur les traces de Bruno Solo, ce comédien, auteur, qui a raconté au micro de Daniel Moreau une partie de Son enfance. Son enfance, j'allais dire. Très joli.
C'est beau.
C'est joli, hein, Son enfance. Non, en fait, c'est Son enfance. Mais en France, bien sûr. Lui, c'est dans les Landes. C'est une région qu'il vous recommande particulièrement. Et il va vous le dire lui-même.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Bruno Solo.
Bonjour Daniel Moreau.
Alors je crois que vous avez un attachement particulier lié à l'enfance pour un petit village des Landes, Saint-Justin d'Armagnac. Ça sent déjà bon.
Très exactement, ça goûte bien en tout cas. Mais c'est vrai que c'est le village où j'allais lorsque j'étais petit, entre 5 ans et 15 ans, jusqu'à ce que ma grand-mère disparaisse. C'est un village qui est vraiment le village de ma famille maternelle, puisque quasiment tous mes oncles et mes tantes, et Dieu sait si j'en ai eu un paquet, puisque ma grand-mère a eu 12 enfants, très exactement, et ils ont tous grandi à Saint-Justin. Et c'était le village où j'allais, où je me baladais, où j'ai eu des copains, où je me suis aussi beaucoup perdu, aventuré. Mes premières aventures solitaires, j'ai vécu dans ce village dont je connaissais les moindres recoins, et la campagne alentour, évidemment, traversée par une rivière très connue dans les Landes, dans ce coin, pas loin de Mont-de-Marsan, puisqu'on est à 20 km de Mont-de-Marsan. C'est le cœur des Landes, hein, c'est pas au bord de mer, c'est dans l'intérieur des terres, au bord du Gers, du Lot, etc. Et traversé donc par cette rivière qui s'appelait la Douze. Rien que le nom me plaisait beaucoup, la Douze.
Vocation pour le voyage. Alors justement, est-ce que vous avez des lieux comme ça, comme vous étiez un petit garçon un peu solitaire, créatif, des lieux où vous aimiez vous balader et qu'on pourrait découvrir quand on ira dans cette région?
Alors effectivement, déjà le village de Saint-Justin d'Armagnac est très joli parce qu'il y a une bastide médiévale du XIVe siècle qui est extrêmement belle avec où culmine une formidable chapelle, une très belle chapelle vraiment. Et puis pas très loin, à peine à 8 km de là, il y a le fameux village La Bastide d'Armagnac qui lui aussi a une place comme ça avec des voûtes, avec une promenade sous des arcades et tout, qui abrite des bâtiments moyenâgeux, et c'est vraiment très joli. Et celui-ci, c'est un village qui est extrêmement connu dans la région et qui est, soi-disant, le village originaire de l'Armagnac tel qu'on le conçoit dans la région. Mais c'est très beau, hein, c'est une très très belle région avec beaucoup, effectivement, de chapelles très anciennes. Il y a un des plus vieux clochers du monde dans le coin, du côté de Douzevielle, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et vraiment, c'est très beau, ce coin des Landes. C'est plus sauvage, c'est plus rustique, plus fermé et tout. On n'est pas dans les Landes du côté de, que j'adore, hein, Seignos, le vieux Boucau, Osgore, etc.
Alors vous éveillez notre curiosité côté géographie, mais vous éveillez aussi notre curiosité pour l'histoire avec ce livre Les visiteurs d'histoire qui est publié aux éditions du Rocher. Alors vous avez eu quand même une drôle d'idée, Bruno, composer un dîner presque parfait, on va dire, avec des invités de taille. Racontez-moi comment s'est fait ce casting.
Alors à titre personnel, déjà je trouve que c'est le dîner parfait puisque j'y ai choisi mes invités, que je ne prends aucun risque avec eux puisque en ces temps de prudence sanitaire, ils sont tous morts, donc ils risquent pas de me transmettre quoi que ce soit, ni moi d'ailleurs, avec 11 personnages historiques connus, mal connus ou carrément méconnus, enfin méconnus, pas des exégètes ou des passionnés d'histoire comme je peux l'être, mais des gens qui découvriraient ces personnages. Je pense à Christine de Pizan ou le cavalier de La Salle, qui ne sont pas des personnages qui, comme ça, tout de suite vous viennent à l'esprit. Mais il y a aussi Clovis, il y a aussi Louise Michel, il y a aussi Aliénor d'Aquitaine, Théophraste Renaudot. Voilà, et je les ai invités parce qu'ils sont tous liés un peu à mon histoire intime, c'est-à-dire qui intellectuel, qui géographique, qui familial, des personnages que j'ai failli jouer, des personnages sur lesquels j'ai écrit, des personnages qu'on crée, des quartiers dans lesquels j'ai grandi, à Paris, le quartier du Marais, pour le personnage de Éloi, par exemple. Et puis voilà, donc j'ai essayé de faire cette rencontre un peu théâtralisée où je discute avec eux en m'appuyant évidemment sur des recherches très rigoureuse d'historiens, et je discute avec eux, je remets en question leur légende.
C'est le livre d'histoire idéal, parce que c'est drôle, parce qu'on vous retrouve. Franchement, on ne s'ennuie pas une seconde, on apprend énormément de choses. Merci Bruno.
Merci Daniel Moreau, vraiment.
Merci beaucoup Bruno Solo. Merci Daniel. Alors Bruno, vous pourrez donc le retrouver en librairie, c'est aux éditions du Rocher, ça s'appelle Les visiteurs d'histoire. Donc il vous a expliqué de quoi il s'agit, ce dîner imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ben, lisez, vous allez voir, avec ces personnages. C'est intéressant parce que, évidemment, c'est très drôle, comme le narrateur, Bruno, mais c'est un récit extrêmement rigoureux, parce que, sur le plan historique, si jamais il commettait une erreur, il s'en prendrait une, et là, tous les historiens sont là, mais de quoi il se mêle? Ben, justement, il connaît très très bien l'histoire de ces gens-là. Bruno est également présent au cinéma, dans un film qui est sorti mercredi, ça s'appelle Sans toi, T-O-I. C'est un film qui vous emmènera à Moscou et à Saint-Pétersbourg.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Chaque samedi sur Europe 1, à la fin de cette émission, on vous propose, malgré l'hiver cette fois-ci, ou grâce à l'hiver, une expérience de plein air qui, à notre avis, sort de l'ordinaire et dans un paysage qui mérite qu'on le visite. Alors, avec Gavins Clément Terruis du Guide de Routard, on a choisi la montagne et on va vous dire pourquoi. Franchement, c'est une bonne idée.
C'est une bonne idée déjà d'aller à la montagne pour se rafraîchir la tête. On en a besoin. Ça se passe dans la station de Morzine. C'est une des plus grandes de France. Et là, on vous propose de faire une petite balade, mais une petite balade en raquette.
Alors, il y a certains d'entre vous, en entendant ça, ils prétendent faire des choses originales. Même balade en raquette, il y en a partout ailleurs. Et ça n'existe pas qu'à Morzine, quoi.
Eh bien non. Mais vous allez voir, cette balade-là, elle est assez unique parce qu'on fait une balade en raquette, mais avec un fauconnier.
Déjà,
je vous intéresse un peu plus là.
Alors, il faudra faire un petit effort encore, un fauconnier. Mais je disais tout à l'heure, c'est un coup, il n'est pas tout seul. Il a un pote avec lui qui vole.
Il a plusieurs potes même. Et puis vous allez les rencontrer, vous allez partir avec. Ce sont des aigles, des condors, des hiboux ou des vautours. Au choix.
Mais comment ça, au choix? On choisit, nous?
Exactement, parce que vous allez partir avec la bête au bout du bras, en raquette.
Et là, par exemple, si j'en sais rien, voyons, condor, parce que j'ai vu ça que dans les livres ou dans les films.
Vous
demandez, s'il vous plaît, monsieur, je voudrais me...
Je veux partir en balade avec un condor, s'il vous plaît.
Ah, d'accord.
Chiche.
Bon, si c'est possible, pourquoi pas. Mais je suppose que ça mérite une petite formation. Ben, on va voir ça tout de suite. Ça tombe bien, puisque nous sommes en ligne avec Jacques-Olivier Travers, fauconnier de son état. Bonjour Jacques-Olivier.
Bonjour.
Alors, comment ça se passe concrètement, hein, on vient, on a réservé, bien sûr, et on dit, moi j'ai dit condor, on part avec un condor. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Alors l'idée, c'est de profiter d'un cadre exceptionnel qui est le cadre naturel des oiseaux, de la montagne, oui, pour partager un petit peu un moment avec eux. Donc vous allez chausser les raquettes, parce qu'évidemment à cette époque de l'année, on a un petit peu de neige ici, et eux vont se balader autour de vous, dans les arbres, sur les rochers, et on va faire une petite balade ensemble, et donc ça permet d'apprécier ces oiseaux dans un environnement qui est un environnement naturel, et puis d'apprendre plein de choses, parce qu'au cours de cette petite balade, on va vous expliquer quels sont les oiseaux qui vivent à l'état sauvage dans notre environnement, et puis surtout, quelles sont les particularités de celui qui vous accompagne, pourquoi il est là, comment il est, où il est né, quel est son rôle. Voilà, c'est à la fois pédagogique, ludique.
Mais alors, j'imagine que ces rapaces, ils sont quelques-uns et ils tournent autour du petit groupe qui marche en raquette. Ils vous accompagnent, quoi, finalement?
Oui, alors on part un maximum 4 personnes, donc les oiseaux sont lâchés chacun à leur tour, parce que vous le savez bien, les rapaces ce sont des prédateurs, malheureusement il n'y a pas de cadeau entre eux, quand ils peuvent s'attraper entre eux, ils peuvent le faire, donc on les fait voler, ah oui, malheureusement c'est comme ça, c'est la vie d'un prédateur, c'est de manger des proies, et un autre rapace peut pour lui être une proie, donc on les lâche à tour de rôle, donc chacun se promène avec son rapace, et puis tout au long de la balade, il y a plusieurs moments où il va pouvoir le lâcher, le faire voler, donc c'est à la fois super plaisant pour l'oiseau, parce que lui bah, il est dehors, il fait un petit peu ce qu'il veut, et puis pour le fauconnier en herbe, à qui on apprend un petit peu ce jour-là. Bien, c'est tard de la fauconnerie, c'est une belle expérience à vivre.
Dites-moi, il n'y a pas de confusion hein, chez le rapace, avec la tête qu'on a, nous, et nos deux pattes, là, ils ne vous disent pas, tiens, je vais me le faire, lui.
Non, c'est hyper important à rappeler, parce qu'on a de plus en plus de rapaces qui vivent dans nos montagnes. Les rapaces n'attaquent pas l'homme, il n'y a aucun problème de cohabitation et de voisinage avec les rapaces. Au contraire, ce sont des oiseaux absolument magnifiques. Les observer, c'est toujours un moment de grâce. Donc, c'est vraiment l'objectif aussi de cette balade. C'est pas simplement de se faire plaisir, c'est aussi d'expliquer un petit peu ce qui se passe dans la nature et qu'il faut qu'on apprenne à partager l'espace avec eux.
Mais Jacques-Olivier, il faut un petit apprentissage quand même pour fréquenter le rapace, parce que si vous dites qu'il vient sur la main, donc j'ai évidemment un gant, mais comment je dois me comporter? Je suppose qu'il ne faut pas faire de gestes brusques, j'en sais rien. On apprend.
Vous avez tout à fait raison. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il y a vraiment une petite gestuelle. Alors, la matinée se déroule en deux parties. Vous avez une première partie où vous allez justement apprendre à comment on le prend, comment on le garde sur le gant, quels sont les gestes pour le faire revenir. Et puis la balade interviendra dans la deuxième partie quand vous aurez déjà eu une bonne heure de familiarisation et que vous vous sentirez vraiment à l'aise avec les oiseaux.
Mais je suppose que vous, le fauconnier, vous avez un langage que le rapace comprend, des mots probablement, une façon de dire les choses.
On a un langage commun, de toute façon ça c'est impératif, mais contrairement à ce que vous pensez, il ne passe pas par les mots, le langage ne passe que par la vue. Hein. Il faut bien se rappeler qu'un rapace a une vision entre 8 à 10 fois meilleure que nous, donc même à plusieurs kilomètres il est capable de nous repérer, là où la voix ne peut pas porter, surtout en montagne. Oui. Par contre, il va repérer le moindre geste, donc on va surtout apprendre aux fauconniers apprentis à ne pas se tromper de geste, à bien faire le bon geste pour rappeler l'oiseau, et à partir de ce moment-là, le dialogue sera un dialogue purement visuel.
D'accord, on devient un peu votre assistant le temps d'une promenade, quoi.
Exactement, on va pas se mentir, on va pas faire de vous des fauconniers en 3 heures. Par contre, vous allez pouvoir commencer à rentrer un petit peu dans le monde, voir quel rapport on instaure. Ce sont pas des chats, ce sont pas des chiens. Alors il y en a qui accrochent totalement et puis qui veulent absolument continuer avec nous et qui continuent après sur des semaines et des années après en faisant de la fauconnerie amateur. Et puis d'autres qui, au bout de 3 heures, ont simplement se dit ben voilà, c'est un bon moment, une belle balade, mais c'est pas mon truc. Et puis ils repartent contents en ayant découvert quand même un monde qu'ils connaissaient pas.
Alors ça dure à peu près, on dit qu'à 45 minutes, c'est ça à peu près?
Alors la partie balade dure à peu près effectivement 45 minutes, et puis je vous dis, il y a une autre partie qui dure à peu près 45 minutes, une heure, qui est la partie de préparation avant la balade.
Et ça se passe où? On est dans un paysage quoi? C'est boisé, c'est plat, c'est vallonné, c'est...
Oui, alors je ne veux pas faire de la réclame pour la Haute-Savoie, mais vous allez arriver à Morzine, vous allez prendre le téléphérique, puisque nous on est à 1500 mètres, on est au plein cœur des pistes, au milieu de la forêt, et puis ensuite on a toute une balade donc qui va se dérouler entre la forêt et puis les petites clairières qu'on a qui dominent toute la vallée, qui va jusqu'au lac Léman, donc c'est un décor mais absolument incroyable, et puis surtout c'est le décor naturel de ces oiseaux.
Non mais vous savez, il ne faut pas avoir honte de parler de votre région que vous aimez beaucoup. Nous c'est notre boulot là, tous les samedis, c'est de dire déplacez-vous en France et pour être dépaysé, visiter votre pays. Alors nous, on est pour. Pourquoi vous aimez ces animaux-là, les rapaces? Il y a des circonstances particulières qui ont fait que vous les aimez bien?
Oui, moi j'allais dire, je suis le parcours traditionnel des passionnés, c'est-à-dire que je me suis réveillé un jour, j'ai vu devant moi voler une buse, j'ai trouvé que c'était vraiment un oiseau incroyable, et puis le jour où j'ai vu un aigle, bah, ça a été une révélation, pour moi c'est la plus belle créature qui existe sur Terre, donc je ne saurais pas vous dire, ouais vraiment, je trouve que les formes sont parfaites, tout est parfait chez un aigle, voilà, donc c'est une histoire d'amour vraiment depuis maintenant presque 40 ans.
Oui, c'est une histoire d'amour de vous, hein, vous Jacques-Olivier pour les aigles, mais est-ce que l'aigle il vous reconnaît? Il sait qui vous êtes. Alors, est-ce que vous dites, tiens, ben, ce galage de conier, c'est le fauconnier qui bosse avec moi?
C'est une très bonne question. Il faut rester très humble. Un rapace n'est pas un chien, il n'a pas d'affection pour nous. Le deal, c'est j'ai confiance en toi, tu as confiance en moi. D'ailleurs, parce qu'ils ont des serres, ils ont un bec. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi pas qu'on ramasse des coups pour rien. Donc la relation, il nous connaît par cœur, il a confiance en nous. Maintenant, il vient pas chercher les papouilles, on va pas se mentir. Mais si je suis au milieu de 1000 personnes, c'est sûr qu'il viendra vers moi.
Non, rassurez-vous. Rassurez-le aussi. Hein. J'avais pas l'intention de lui faire un gros bisou. Hein.
Il vaut mieux éviter.
Ouais, comme diraient les jeunes, rouler une pelle à un rapace. Non, je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé. Bon, en tout cas, merci.
Ça se compte en point de suture, c'est ça le problème.
Merci beaucoup Jacques-André, merci pour cette très bonne idée. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Monsieur Gavitz, alors, expliquez-nous comment on va là-bas, combien ça coûte, combien de temps on y reste, et qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de ça?
Eh bien, on a déjà un petit peu entendu les informations de Jacques-Olivier. On va monter à Morzine, on va prendre le téléphérique et on va arriver pour la sortie raquette en montagne. Alors, la société de Jacques-Olivier qui vous propose ça s'appelle Les Aigles du Léman, si vous cherchez plus d'informations. C'est sur réservation, ça dure un peu plus de 2 heures environ avec la formation. Ça coûte 75€ par personne pour la sortie.
Ah oui, non, mais 115€, on pourrait dire, oh là, bah, non, c'est pas donné, mais ça, c'est plus de 2 heures, même,
C'est quand même assez dense. Occasion, c'est original, on ne fait pas ça partout, et vous aurez toutes les informations sur europe1.fr, bien entendu.
Bon, mais là-bas, quand on est en montagne, un petit coup de raclette fondue, oui, non?
Après un petit coup de raclette, en effet, une des bonnes adresses du coin que les amateurs m'ont donné et que j'ai trouvé.
Mais vous faites des blagues dans le guide du routard?
J'arrête pas. Là, c'est une adresse du routard Savoie-Mont-Blanc, des meilleurs guides sur la destination, bien entendu. Excusez-moi. C'est le resto des Chevrelles. Alors là, on est au G, un petit resto d'alpage, c'est juste à côté, c'est au-dessus de la station, avec toutes les spécialités savoyardes dont on peut rêver. La raclette, bien entendu, la fondue, la tartiflette, et il y a même, pour le dessert, la petite tarte aux myrtilles.
Bah oui.
Non, je t'ai plus.
Alors, si vous voulez tout ça, vous regardez europe1.fr, vous aurez un peu plus de détails encore. On termine avec un récapitulatif de ce que l'on vous a présenté aujourd'hui.
Exactement.
Écoutez ça même en replay si vous voulez. Hein.
Alors, on a fait un petit aller-retour en Asie, uniquement en restant dans le village de Noyant d'Allier, dans le Bourbonnais, avec sa pagode toute dorée, son joli Bouddha qui nous accueille.
On se croirait au Vietnam là-bas.
Exactement, voire même en Asie tout simplement. C'est beau. Nous sommes allés aussi à Douai. Alors là, c'était pour gravir le Beffroi, au sommet duquel on a le plus grand carillon d'Europe, de France déjà, peut-être d'Europe.
France, c'est bien, Europe peut-être.
C'est
celui-là.
Oh, regardez comme c'est beau. Alors là, on est allé ensuite à Nîmes. Nous avons fait le plein avec notre jean en toile de Nîmes, bien entendu. Ensuite, on vient de terminer par une visite avec un rapace au poignet. Nous avons fait une sortie en raquette à Morzine dans un cadre exceptionnel. Tous ces lieux sont à visiter, bien entendu, avec ou sans guide. Mais vous pouvez vous renseigner sur europe1.fr.
La plupart du temps de ces sites dont on vous parle le samedi sur Europe 1, c'est la plupart du temps avec des guides. C'est assez rare quand il n'y a pas quelqu'un pour vous accompagner et vous expliquer ce que vous êtes en train de faire. Alors pour terminer, une idée de livre, de film, d'expo qui parle de la France cette semaine, c'est une expo?
Oui, alors j'ai choisi l'expo à Paris, pour une fois, au Musée des Arts Décoratifs. On est juste à côté du Louvre. Alors l'exposition, ça s'appelle « De prix unique à monoprix, une aventure française ».
C'est original ça.
Ouais, c'est le Musée des Arts Déco qui a voulu montrer à travers ces deux marques emblématiques françaises, l'accès au design de façon assez populaire. Alors il y a eu plein de collaborations graphiques, mais aussi des créations d'artistes, de designers contemporains comme Terence Conran ou India Madhavi pour ces deux marques, vendues dans les boutiques Prix Unique, qui sont nées en 1934 et qui ont fusionné en 1997 avec Monoprix. Et je suis sûr que l'exposition, vous allez trouver plein d'objets de votre enfance, de votre adolescence et voire même du mobilier actuel que vous pouvez acheter dans ces
magasins. Même les collections de vêtements dans ces magasins-là étaient exceptionnelles à
l'époque.
Elles
sont toujours assez uniques et uniquement réalisées pour ces marques, cette boutique. Donc ça s'appelle De Prix Unique à Monoprix. C'est une aventure française au Musée des Arts Décoratifs. C'est à Paris jusqu'au 15 mai.
Laissez-vous dire si c'est une exposition de qualité, parce que c'est fait en partenariat avec Europe 1.
En plus, alors, que demande le peuple?
Voilà. Merci beaucoup, jeune homme, pour ce bon conseil d'exposition sur le design démocratique. L'émission m'étant terminée, merci beaucoup à Maryse Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau, Morgane Biquilet et Gavis Clément-Terru. Merci à vous, madame, monsieur, qui écoutez cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux depuis le début de la saison à nous écouter. Nous en sommes ravis. Donc, je vous dis à samedi prochain, non ?